Alors, prêt pour une plongée fascinante. Aujourd'hui, on explore Amtenya, les Zawiyas et le rite malikite, héritage et spiritualité.
Ah oui.
Le livre d'Adnan Ben Chakroun paru en 2025.
Oui.
Accrochez-vous. On va décortiquer les Zawiyas, ces institutions spirituelles et culturelles qui imprègnent le Maroc depuis des siècles.
Oui, Ben Chakroun nous offre un véritable voyage à travers l'histoire, la spiritualité et l'évolution de ces lieux uniques. C'est fascinant de voir comment elles ont façonné l'identité du Maroc, à la fois religieuse et sociale.
Exactement. Dès le début, Ben Chakroun nous plonge au cœur du soufisme, ce courant mystique de l'islam, qui est à l'origine des Zawiyas. Mais attention, il nous prévient tout de suite, les Zawiyas sont bien plus que de simples lieux de culte.
Absolument. Ben Chakroun met en avant leur rôle crucial dans l'éducation, la solidarité sociale, la transmission du savoir. Elles sont presque comme des oasis spirituelles dans un monde de plus en plus matérialiste, pour reprendre son expression.
Cette image d'oasis est forte. On sent tout de suite que les Zawiyas offrent un refuge, un espace de ressourcement. Mais est-ce que cette image est toujours valable aujourd'hui? Le monde a tellement changé. Est-ce que les Zawiyas peuvent encore parler aux jeunes générations?
C'est une question essentielle que Ben Chakroun soulève tout au long du livre avant de se projeter vers l'avenir. Il nous propose de remonter le temps, d'explorer l'histoire fascinante de ces institutions.
Parfait. Alors, on embarque pour un voyage dans le temps retour au Moyen-Âge, à l'époque où les premières Zawiyas apparaissent comme des lieux de retraite spirituelle.
Imaginez des hommes, des ascètes soufis, qui cherchent à se rapprocher de Dieu à travers une vie de prière, de méditation, d'ascèse. Ils se retirent du monde parfois dans des lieux isolés pour se consacrer entièrement à leur quête spirituelle.
On a l'image de l'ermite dans le désert coupé du monde. Mais Ben Chakroun précise bien que toutes les Zawiyas n'étaient pas isolées. Certaines étaient en ville au cœur de la vie sociale.
Oui, l'important était de créer un espace propice à la spiritualité. Un lieu où l'on pouvait se retirer du bruit et des distractions du monde pour se concentrer sur l'essentiel.
Et comment ces lieux de retraite se sont-ils transformés en institutions aussi importantes?
C'est la force du soufisme. Les maîtres spirituels, les cheikhs, attiraient des disciples de Murid qui venaient apprendre à leur côté, ces disciples à leur tour, transmettaient les enseignements, créant ainsi des réseaux de plus en plus vastes.
Donc, petit à petit, les Zawiyas sont devenus des centres d'apprentissage, des lieux de transmission du savoir. On y enseignait le Coran, la Sunna, la jurisprudence islamique, mais pas seulement, si j'ai bien compris.
Absolument. Ben Chakroun insiste sur la richesse et la diversité des disciplines enseignées dans les Zawiyas. On y trouvait aussi de la grammaire arabe, de la littérature, de la poésie, de l'histoire et parfois même de la médecine et de l'astronomie.
C'est fascinant, on a souvent l'image d'un enseignement religieux assez strict, mais en réalité, les Zawiyas étaient des lieux de savoir pluridisciplinaires.
Oui, et Ben Chakroun souligne leur rôle important dans la diffusion du savoir en général, contribuant ainsi à l'épanouissement intellectuel de la société marocaine.
Et cet enseignement, comment était-il dispensé? Est-ce qu'on avait des salles de classe, des examens, des diplômes comme aujourd'hui?
Pas vraiment, l'enseignement était beaucoup plus informel, basé sur la transmission orale, la mémorisation, le débat. Les disciples se réunissaient autour du cheikh, écoutaient ses enseignements, posaient des questions. C'est une méthode pédagogique bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, basée sur l'écrit, les manuels scolaires, les évaluations.
Tout à fait. Ben Chakroun met en avant les avantages et les limites de cette méthode traditionnelle d'un côté. Elle favorisait l'esprit, critique la réflexion personnelle, le développement de la créativité de l'autre. Elle pouvait être inégalitaire, dépendant du charisme du maître et de la motivation des disciples.
Et n'oublions pas le rôle politique des Zawiyas, surtout pendant la colonisation. Ben Chakroun décrit comment certaines Zawiyas sont devenues des foyers de résistance contre l'occupation française.
Oui, elles ont mobilisé les populations, soutenu les mouvements de libération nationale. Elles étaient perçues comme des symboles de l'identité marocaine, une force d'opposition face à l'influence étrangère. C'est une période clé dans l'histoire des Zawiyas.
Et là, j'ai envie d'entendre l'autre son de cloche. Ben Chakroun est-il totalement impartial quand il décrit ce rôle héroïque des Zawiyas? N'y a-t-il pas des critiques des zones d'ombre?
Bien sûr, certains historiens nuancent ce tableau. Ils soulignent que certaines Zawiyas ont collaboré avec le pouvoir colonial ou qu'elles ont profité de la situation pour accroître leur propre influence. Il faut éviter une vision simpliste. L'histoire est rarement tout blanc ou tout noir.
D'accord, on évite de tomber dans le manichéisme. L'histoire des Zawiyas est complexe, faite de moments de résistance, mais aussi de compromis d'adaptation. C'est ce qui la rend d'autant plus passionnante à explorer.
Exactement. Et on ne peut pas parler des Zawiyas sans parler du rite malikite dominant au Maroc. Ben Chakroun le décrit comme un rite souple dans son application, mais rigoureux dans ses fondements. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Oui, j'avoue que cette description m'interpelle. Comment un rite peut-il être à la fois souple et rigoureux? N'est-ce pas contradictoire?
Pas forcément. Le rite malikite accorde une importance particulière aux traditions et aux coutumes locales. Il s'adapte au contexte social, ce qui explique sa popularité au Maroc. Mais cela ne signifie pas qu'il est laxiste. Il repose sur des principes solides tirés du Coran et de la Sunna.
Donc on a une forme d'islam qui est à la fois enracinée dans la tradition et ouverte à une certaine flexibilité. C'est intéressant.
Oui, et c'est là que le soufisme entre en jeu. Il apporte une dimension spirituelle, une quête intérieure qui va au-delà de la simple application des règles.
On a donc, si je comprends bien, un équilibre entre la rigueur du rite malikite et la profondeur spirituelle du soufisme. C'est ce qui fait la particularité de l'islam au Maroc, selon Ben Chakroun.
Exactement. Et cette alliance a permis aux Zawiya de jouer un rôle central dans la société en transmettant un islam à la fois rigoureux et mystique.
Fascinant. Mais avant de plonger dans la spiritualité soufie, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les critiques adressées aux Zawiya. Ben Chakroun évoque des accusations de conservatisme d'instrumentalisation politique.
Oui, il est important de ne pas idéaliser ces institutions. Certains les accusent d'être figés dans le passé, de représenter un islam dépassé, incapable de répondre aux besoins du monde moderne.
Et Ben Chakroun, comment réagit-il à ces critiques? Est-ce qu'il les balaye du revers de la main?
Non, au contraire, il les prend en sérieux et les intègre dans sa réflexion. Il remet que certaines critiques sont fondées et que les zawiya doivent évoluer pour rester pertinentes. D'ailleurs, c'est ce qu'il explore dans les chapitres suivants.
Parfait, on a déjà une bonne vue d'ensemble de l'histoire et du rôle des Zawiya. Maintenant, j'ai hâte de plonger au cœur de leur spiritualité, de découvrir ce soufisme qui les anime.
Alors, préparez-vous à explorer un monde fascinant, rempli de mysticisme, de rituels et de quêtes de sens. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre exploration. Reprenons notre exploration, Ben Chakroun nous emmène au cœur vibrant des Zawiya, leur dimension spirituelle. Préparez-vous à plonger dans le soufisme, cette quête mystique qui imprègne ces institutions.
Ah, le soufisme, un sujet qui intrigue, autant qu'il fascine. Mais concrètement, comment se traduit cette quête spirituelle dans la vie quotidienne des Zawiya?
Eh, Ben Chakroun décrit plusieurs pratiques clés. Prenons le dhikr, par exemple, cette invocation répétée du nom de Dieu, pratiquée individuellement ou en groupe.
Oui.
Vise à calmer le mental et à ouvrir le cœur à la présence divine.
C'est intéressant car on retrouve cette idée de répétition d'un nom divin ou d'une formule sacrée dans d'autres traditions spirituelles. Pensez au mantra dans le bouddhisme ou à certaines prières chrétiennes.
Exactement, le dhikr est une forme de méditation active qui permet de se détacher du monde matériel et de se concentrer sur le divin. Ben Chakroun mentionne même que le dhikr peut conduire à des états de transe, des moments d'extase où les disciples se sont unis à Dieu.
Des états de transe, voilà, qui ajoutent une dimension encore plus mystique à cette pratique. Mais est-ce que le soufisme se limite au dhikr? Y a-t-il d'autres pratiques qui nourrissent cette quête intérieure?
Bien sûr, Ben Chakroun nous parle de la kalwa, la retraite spirituelle. Le disciple se retire du monde pendant un certain temps pour se consacrer entièrement à la prière, à la méditation, à l'étude des textes sacrés.
Oui,
un moment d'introspection profonde, de purification et de recentrement sur l'essentiel.
La kalwa, une sorte de retraite spirituelle intensive. On pourrait la comparer à la pratique des ermites qui se retirent dans des grottes ou des lieux isolés pour méditer.
Oui, l'idée est similaire, sauf qu'ici, la retraite se déroule généralement au sein de la zawiya, sous la guidance d'un maître spirituel, le cheikh. Et c'est un point important que Ben Chakroun souligne le rôle central du cheikh dans le soufisme.
Ah oui, le cheikh, on en a déjà parlé un peu, mais j'aimerais qu'on explore davantage ce rôle. Pourquoi est-il si crucial dans la tradition soufie?
Le cheikh est bien plus qu'un simple professeur. Il est un guide spirituel qui a lui-même parcouru le chemin de la quête intérieure. Il accompagne le disciple, le conseille, l'aide à surmonter les épreuves et les obstacles sur sa voie spirituelle.
On pourrait dire qu'il est comme un mentor, un accompagnateur expérimenté qui aide le disciple à naviguer sur le chemin, parfois sinueux de la spiritualité.
Exactement. Ben Chakroun compare le cheikh à un médecin de l'âme qui aide à guérir les blessures du cœur, les traumatismes, les blocages qui empêchent le disciple d'avancer sur sa voie.
Cette image du médecin de l'âme est très parlante, mais est-ce que cette relation maître-disciple, aussi forte soit-elle, ne risque pas de créer une forme de dépendance? Le disciple ne risque-t-il pas de perdre son autonomie, sa capacité à penser par lui-même?
C'est une question légitime et Ben Chakroun ne l'esquive pas. Il reconnaît qu'il existe un risque de dérive, de manipulation, d'abus, de pouvoir dans ce type de relation.
Donc il faut être vigilant, discerner les vrais maîtres des faux prophètes.
Absolument. Ben Chakroun insiste sur l'importance de choisir un cheikh authentique, un guide spirituel intègre et bienveillant qui encourage l'autonomie et l'épanouissement du disciple et non sa soumission aveugle.
C'est rassurant de voir que Ben Chakroun aborde ces questions avec nuance. Il ne présente pas le soufisme comme un système parfait exempt de critique.
Oui, et c'est d'ailleurs ce qui rend son analyse si intéressante. Il ne tombe ni dans l'idolâtrie, ni dans le rejet systématique. Il nous invite à une réflexion critique et approfondie sur le soufisme et ses implications dans la société marocaine.
Et justement, quelles sont les critiques les plus couvantes adressées au soufisme? Ben Chakroun mentionne-t-il des points de vue divergents?
Bien sûr, certaines critiques portent sur le culte des saints très présent dans le soufisme marocain. Certains y voient une forme d'idolâtrie, une déviation par rapport à l'islam pur qui prône l'adoration exclusive de Dieu.
C'est un débat théologique complexe qui traverse l'histoire de l'islam depuis des siècles. Comment Ben Chakroun se positionne-t-il face à ces critiques?
Il reconnaît que certains abus existent, mais il défend l'idée que le culte des saints, dans son essence, n'est pas une adoration, mais une forme de vénération, de respect pour des hommes et des femmes qui ont atteint un haut niveau de spiritualité. Il les voit comme des modèles, des sources d'inspiration sur le chemin spirituel.
Donc selon Ben Chakroun, le soufisme, malgré les critiques et les potentielles dérives, reste une voie authentique vers Dieu, une voie qui a profondément marqué le Maroc et ses habitants.
Oui, et il nous invite à ne pas le réduire à des clichés ou à des idées préconçues. Le soufisme est une tradition riche, complexe, qui mérite d'être étudiée et comprise dans sa globalité.
Bon, on a exploré l'histoire, la spiritualité, et maintenant j'ai hâte de découvrir le rôle des zaouias comme centre de savoir. Ben Chakroun nous rappelle qu'elles n'ont pas seulement été des lieux de prière et de méditation, mais aussi de véritables foyers intellectuels.
Absolument, on a souvent une vision un peu romantique des zaouias, avec des bibliothèques poussiéreuses remplies de vieux manuscrits des érudits en djellaba débattant de théologie pendant des heures.
C'est vrai que l'image est tentante, mais au-delà du cliché, quelle était la réalité de l'enseignement dans les zaouias?
Ben Chakroun nous décrit un système d'apprentissage riche et diversifié. Bien sûr, on y enseignait les sciences religieuses, le Coran, la Sunna, la jurisprudence islamique selon le rythme malikite.
Mais si j'ai bien compris, l'enseignement ne se limitait pas à la religion.
Exactement. Ben Chakroun met l'accent sur la variété des disciplines enseignées. On y trouvait aussi de la grammaire arabe, de la littérature, de la poésie, de l'histoire, et même parfois des sciences comme la médecine et l'astronomie.
C'est surprenant. On a souvent l'image d'un enseignement religieux assez strict, fermé sur le monde extérieur. Or, les zaouias semblent avoir joué un rôle plus large dans la transmission du savoir en général.
Oui, Ben Chakroun déconstruit cette idée reçue. Il montre que les zaouias ont contribué à l'épanouissement intellectuel de la société marocaine en ouvrant leurs portes à différentes formes de savoir.
Et concrètement, comment se déroulait cet enseignement? Avait-on des salles de classe, des examens, des diplômes, comme dans le système éducatif moderne?
Pas vraiment, la pédagogie était bien différente. L'enseignement était principalement oral, basé sur la mémorisation, l'échange, le débat, les disciples se réunissaient autour du cheikh, écoutaient ses leçons, posaient des questions et apprenaient en participant activement à la vie de la zaouïa.
C'est une approche très différente de notre système éducatif actuel, plus formel et structuré. Est-ce que Ben Chakroun analyse les avantages et les limites de cette méthode traditionnelle?
Bien sûr, il souligne que cette approche favorisait l'esprit critique, la réflexion personnelle, la créativité, mais elle pouvait aussi être inégalitaire, car la qualité de l'enseignement dépendait beaucoup du charisme du maître et de la motivation des disciples. De plus, l'accent mis sur la tradition orale limitait l'accès aux ouvrages écrits, aux textes scientifiques et philosophiques.
Donc on a un système d'apprentissage à la fois stimulant et limité. C'est intéressant de voir comment chaque époque a ses forces et ses faiblesses en matière d'éducation, mais qu'en est-il de l'avenir des zaouïas? Comme centre de savoir, peuvent-elles encore jouer un rôle dans le monde moderne face à la montée en puissance de l'éducation publique des universités d'Internet?
Ben Chakroun est assez pessimiste sur ce point. Il constate que les zaouïas ont perdu beaucoup de leur influence. Les jeunes générations ont accès à une multitude de sources d'informations. Ils n'ont plus forcément besoin des zaouïas pour apprendre.
C'est un peu triste de penser que ces institutions millénaires pourraient perdre leur raison d'être. Mais est-ce que Ben Chakroun entrevoit des solutions, des pistes pour que les zaouïas puissent s'adapter et rester pertinentes?
Oui, il ne les condamne pas à la disparition. Il pense qu'elles peuvent encore jouer un rôle. Mais à condition de se réinventer, de s'adapter aux nouvelles réalités, il les encourage à valoriser leur patrimoine, leurs manuscrits anciens en les numérisant, en les rendant accessibles à tout. Il les incite aussi à développer des formations en ligne, à utiliser les réseaux sociaux pour toucher un public plus large.
Donc pour survivre, les zaouïas doivent embrasser la modernité, tout en préservant leur héritage spirituel et culturel. Un sacré défi.
Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre entre tradition et innovation, de concilier l'ancien. Et le nouveau Ben Chakroun est convaincu que les zaouïas ont encore beaucoup à offrir au monde aujourd'hui. Elles peuvent être des lieux de dialogue interculturel, de promotion, de la tolérance de transmission d'une spiritualité humaniste.
C'est une vision optimiste, mais comme toujours, j'ai envie d'entendre l'autre son de cloche. Quelles sont les critiques adressées au rôle éducatif des zaouïas? Y a-t-il des voix qui s'élèvent contre leur vision du savoir, leur pédagogie?
Oui, certains intellectuels remettent en question la qualité de l'enseignement traditionnel dispensé dans les zaouïas. Ils le jugent trop dogmatique, trop axé sur la mémorisation, pas assez stimulant pour l'esprit critique, et la réflexion indépendante, ils prennent que cet enseignement ne soit plus adapté aux besoins du monde moderne, qu'il ne prépare pas suffisamment les jeunes aux défis du XXIe siècle.
Ce sont des critiques qu'il faut prendre au sérieux. On ne peut pas idéaliser le passé et ignorer les limites des méthodes traditionnelles. Le débat est ouvert.
Et c'est ce que Ben Chacroun fait tout au long de son livre. Il nous invite à une réflexion nuancée, à la fois critique et constructive, sur le rôle des Zaouïas dans la société marocaine. Il ne cherche pas à imposer une vérité absolue, mais plutôt à éclairer un sujet complexe, riche d'histoire et de spiritualité.
Voilà une belle conclusion à notre exploration. Merci de nous avoir guidés à travers les pages de ce livre passionnant. On a beaucoup appris sur les Zaouïas, ces institutions uniques qui continuent de fasciner et d'inspirer.
Merci à vous. J'espère que cette plongée au cœur des Zaouïas vous a donné envie d'en savoir plus le sujet et loin d'être épuisé. Et Ben Chacroun nous invite à poursuivre l'exploration, à nous poser des questions, à rester curieux.
Exactement, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Qui sait, peut-être que les Zaouïas, ces oasis spirituelles, auront encore un rôle à jouer dans notre quête de sens, dans un monde en perpétuelle mutation. À bientôt pour de nouvelles découvertes.